ne se reconnaissait pas lui-même et se pliait à remettre en cause sa propre raison, laquelle était le seul vivant pilier de son existence orpheline. Et pour couronner tout ce désordre intérieur, son corps même lui faisait défaut, accablé par les assauts terribles que lançait contre lui la privation de Diacode. Oubliant sa promesse, gagné par la colère ou par une folie passagère peut-être, l'apothicaire se leva d'un bond, tout tremblant et transpirant beaucoup, et se précipita vers la grande tenture qu'il arracha d'un geste rageur et désespéré. Mais de l'autre côté, il ne trouva personne. Personne. Il n'y avait là que les flammes dansantes d'une grande cheminée, l'odeur du bois qui brûle, le silence pesant d'une veillée funèbre. Et alors Andreas se mit à vaciller. Se rattrapant à la table près de lui, il suffoqua, bafouilla, jeta autour de lui des regards hallucinés, puis il se frotta le visage et se demanda si ce qu'il venait d'entendre, de vivre, n'eût pu être le fruit des délires atroces qui terrassent celui à qui l'opium fait soudain défaut. La chose, certainement, eût été presque un réconfort. Mais il n'en était rien. Et c'était bien là ce qu'il y avait de pire. Chapitre 111. À Paris, ce fut deux jours plus tard, et donc le 31 mars 1313, que le messager parti de Bayonne se présenta devant le chambellan au palais de la Cité, afin de lui apprendre la mort atroce de Guillaume Imbert, grand inquisiteur de France, et de lui dire les circonstances dans lesquelles celle-ci était advenue. La nouvelle qu'Enguerrand de Marigny ne put garder secrète bien longtemps fit grand bruit, et le soir même, sous la pression des siens, le roi décida de réunir son conseil. La séance se tint à l'abri de la double voûte en ogive de la grande salle, lambrissée de bois et peinte d'azur, laquelle, surplombant l'immense pavé de marbre, faisait résonner longuement les paroles pourtant confidentielles qu'on échangeait sous elle, leur donnant une ampleur et une gravité qui seyaient bien à pareille occasion. Au nombre des conseillers réunis autour de la longue table de bois de chêne, comme surveillés par les statues de tous les rois de France depuis Pharamond, qui se dressaient entre les hauts piliers, on compta naturellement le chambellan, mais aussi Louis Ier de Navarre, fils de Philippe le Bel, ainsi que Pierre de Latilly, nouveau garde du Sceau, et Charles de Valois, frère de Sa Majesté, qui n'était pas encore parti pour Étampes. Et le maire de Bayonne nous fait savoir qu'il tient un homme chauve, approchant la quarantaine, pour assassin de Monseigneur Imbert. Or, il apparaît à Sa Majesté comme à moi-même, que le suspect s'y décrit ne saurait être autre qu'Andreas Saint-Loup soi-même, apothicaire de son état, que l'inquisiteur justement était parti confondre sur ordonnance royale, et qui était déjà soupçonné du meurtre du chancelier Nogaret. « Sait-on ce qu'il faisait à Bayonne ?» demanda Charles de Valois, qui, de tous les convives, était celui qui se sentait le plus concerné par cette audience, comme elle avait un étroit rapport avec l'affaire secrète qui le préoccupait. « Nous pensons qu'il se rend à Compostelle, » répondit vivement Marigny, qui lui eût sans doute préféré qu'on quittât rapidement le sujet. « Il y aurait déjà vécu il y a une quinzaine d'années. » « Sa Majesté a-t-elle décidé ce qu'il convenait de faire ?» demanda le frère du roi. Tous les regards se tournèrent vers Philippe le Bel, mais celui-ci fit un geste au chambellan pour qu'il répondît à sa place. « La nomination du grand inquisiteur de France relève du roi. Nous allons donc chercher à Imbert un digne successeur. Nous songeons à plusieurs candidats. D'abord, il y aurait Jacques Fournier, abbé de Fontfroide, qui est brillant et érudit, mais il est cistercien, et encore un peu jeune. Nous avons aussi songé au dominicain Bernard Guy, qui a déjà fait ses preuves comme inquisiteur de Toulouse, mais qui peut-être est trop près du pape. Certes, il y aurait Nicolas de Lyre, qui était aux côtés de Imbert lors du procès de Marguerite Porrette, et qui a l'habitude de traiter avec les hérétiques, mais il est de parents juifs. Enfin, il y a le franciscain catalan Fabry, qui pour l'instant recueille notre préférence. Mais nous n'avons encore rien décidé. »